Moi, j'ai une question sur le voyage parce que je me souviens qu'à 17 ans, je pensais beaucoup à ça aussi. Et qu'est-ce que vous espérez trouver dans le voyage en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Et qu'est-ce que c'est le voyage en fait? Qu'est-ce que ça veut dire voyager pour vous?
Pour moi, voyager, c'est surtout découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. En fait, je pense qu'il y a tellement de personnes qui voient le monde d'une manière différente de la nôtre que voilà, voyager, en fait, c'est arriver à voir. C'est comme voir la même chose, mais à travers d'autres yeux, à travers d'autres cultures et d'autres personnes.
Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, il n'y a pas forcément besoin d'aller loin pour voyager. Parce que, en fait, des gens qui ont une autre vision des choses, bah, il y a vous tous. Et on peut voyager à travers chaque personne. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. On peut juste voyager dans la façon de penser de quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où c'est autrui, eh ben, il y a tout à découvrir. Donc, pas forcément d'aller au bout du monde, je pense. Enfin, pour moi, voyager, c'est pas aller au bout du monde, c'est vraiment aller au bout des choses.
Bah après, quand on parle de voyager physiquement, je veux dire, aller d'un point A à un point B, c'est important parce que il y a cette idée de sortir sa zone de confort et de enfin découvrir une autre culture, découvrir autre chose, et essayer de comprendre, comme a dit Tim, l'autre culture, et vraiment enfin s'imprégner de ça, enfin ça permet aussi de nous faire évoluer en tant que personne.
Ouais, aussi en voyage, ce que je trouve intéressant, c'est que quand par exemple, oui, on dit qu'on va en vacances, on va dans les lieux touristiques, on reste dans les endroits où tous les étrangers restent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'aller vraiment dans la vraie vie et par exemple de partir juste avec un sac à dos et de faire des rencontres inattendues et d'être vraiment dans la vraie vie parce que c'est plus intéressant.
Ben, en fait, voyager parfois, enfin, à notre sens, je me demande si c'est pas un petit peu égoïste aussi. Genre, on voyage, on prend ce qu'il y a à prendre et on revient chez nous.
J'ai entendu un terme tout à l'heure. La vraie vie, c'est quoi?
Bah, par exemple, récemment, on est allé en Chine et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est une culture vraiment différente d'ici. Et au final, on est plutôt resté dans les endroits touristiques. Et quand on allait dans les quartiers populaires ou dans les vraies rues d'habitation, je trouvais que l'atmosphère était vraiment différente et c'était vraiment pas ce qu'on. Enfin, c'était vraiment pas ce qu'on voyait si on restait vraiment du côté touristique. Et enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux aspects très différents, des monuments et des vraies rues. Et, par exemple, je sais pas, les petits commerces. Enfin, je sais pas, c'était intéressant à voir.
La tour Eiffel ne fait pas partie de la vraie vie, parce qu'il y a d'autres Asiatiques aussi qui viennent justement en France pour voir la tour Eiffel.
Enfin, je pense que les monuments, c'est plus historique. Mais après, la vie quotidienne des gens qui y habitent, c'est pas la Tour Eiffel.
Pour moi, ouais, la Tour Eiffel, c'est pas la vraie vie, c'est une image que la France a pour les autres pays. Enfin, on pense à la France, on va penser à Paris, à la Tour Eiffel, à bah, tous les clichés français. Mais
pour moi, la vraie vie, c'est pas un monument ou c'est pas une rue. La vraie vie, c'est le quotidien. Et le seul moyen de rencontrer la vraie vie, c'est de rentrer dans le quotidien. Ben, c'est vrai que aller voir la Tour Eiffel et prendre une photo en haut, c'est peut-être pas la vraie vie de la Tour Eiffel, mais les messieurs qui tous les jours montent dans les échafaudages et nettoient la Tour Eiffel et revernissent les parties, ça c'est la vraie vie de la Tour Eiffel, c'est son quotidien.
La Tour Eiffel, elle a reflété une image très belle de la France avec tous ses monuments, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, alors qu'en soi, enfin, je trouve pas vraiment que les Champs-Élysées soient très jolies. Personnellement, c'est quand même assez goudronné. Enfin, je trouve que c'est pas hyper esthétique comparé à d'autres trucs qu'on peut trouver partout en France, et enfin où c'est beaucoup moins peuplé et beaucoup moins connu, où il n'y a pas tous ces magasins de luxe et toute cette image enfin dorée de la France.
Oui,
Mais il y a des trucs bien plus jolis.
cette partie de la France, elle existe aussi. Et
Oui, elle existe, mais elle est carrément, enfin de mon point de vue, elle est vraiment minoritaire par rapport à tout ce qui existe en France. Je trouve que c'est vraiment un point de vue biaisé et extrêmement fermé sur
moi,
extrêmement petit sur la France.
je suis pas sûre que ça soit biaisé parce que ça existe vraiment, mais ce qu'il faut, c'est avoir conscience de cette image-là, tout en ayant conscience aussi du reste et de ce qu'il y a en majorité. Il faut voir les choses de manière globale en incluant aussi ces lieux touristiques et ces choses que tout le monde connaît. Il faut connaître tout pour connaître.
voulais d'abord savoir, est-ce que Nelly, vous avez déjà été une fois en Algérie?
Non, non, je n'y ai jamais été.
Bon, ça ne dérange pas, mais de toutes les façons, à la maison, vous avez au moins été buté à deux cultures différentes à la maison. Est-ce que ça vous embête, ça vous dérange, ou soit vous trouvez ça bon d'avoir plusieurs cultures au même moment, ou soit vous êtes plus à l'aise avec une culture, soit la culture française, parce que qu'on en parle, vous êtes quand même française.
Non, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais pour moi, il n'y avait aucun problème à vivre avec deux cultures. Enfin, je ne vois aucun problème avec ça, je ne vois pas pourquoi. Parce qu'on devrait absolument s'adapter à la culture française.
Et tu t'en sors comment? Parce qu'à la maison, à l'extérieur, tu es avec le français, les français, donc tu es française. Du coup, lorsque tu rentres à la maison, tu as plusieurs façons de voir les choses, de vivre. Et c'est pas un peu perturbant pour toi?
Non, pas tant que ça, parce que j'ai vécu toute ma vie comme ça. Du coup, j'ai pas vécu autrement.
D'après ce que j'ai entendu, tu as trois cultures, je pense. Parce que tu m'as dit de l'Angleterre, la France fait partir et de l'Algérie. En fait, c'est ma première fois de voir une personne qui a trois cultures. J'apprécie. Oui, c'est ma première fois. Et heureusement, oui, j'apprécie. Mais je pense bien que parmi ces trois cultures, peut-être il y a un soir que tu adores réellement. Je ne pense pas que tu aimes totalement tous les trois ensemble. Parce qu'on ne peut pas aimer trois choses en même temps.
Moi, je connais déjà la réponse.
On va dire, au niveau de la culture, ce que je préfère, on va dire... Enfin, je ne sais pas si on peut considérer ça comme la culture, mais c'est la nourriture. La nourriture du côté de ma mère. Donc, le côté, on va dire, africain, épicé, enfin, je ne sais pas, mais pas, la culture de... enfin, pas la nourriture du niveau de mon père.
Donc, je pense c'est ton père qui est anglais ou bien...
Anglais.
Anglais. Donc, c'est la culture française qui est au milieu entre les deux. Là, c'est parce que tu es né là et...
Oui, moi, ma mère aussi, enfin... On va dire elle est dans la même position que ce que je suis maintenant. Ses parents sont algériens, mais elle-même est née en France. Et elle a toujours vécu avec une famille musulmane ainsi qu'algérienne. Et du coup, quand mes parents se sont rencontrés, elle a influencé mon père. Et du coup, on a toujours vécu, on va dire, un peu comme ça.
Donc, je pense bien qu'à la maison, vous êtes soumis à quelle sorte de culture réellement, algérien ou bien français?
Un mélange des deux, je ne pourrais pas dire.
Quand je parle de culture, je pense que je me réfère d'abord à ma manière de vivre, au comportement, à ma tradition, à ma langue. Tout ça fait partie de ma culture. En fait, si j'ai posé la question à Amélie, des différentes sortes de cultures, parce que moi, si, par exemple, je suis en France, je me dis que je ne peux pas lasser ma culture. Je suis guinéen, et même en Guinée, on a différentes sortes de cultures. Par ethnie, on a différentes sortes de cultures. De la manière que moi, je me comporte, un malinqué ne se comporte pas comme ça. Un peul ne se comporte pas comme ça.
Et est-ce que ça se mélange en Guinée, toutes ces cultures?
Bon, ça se mélange des fois... parce qu'on se comprend. Quand on est ensemble, personne ne dérange son ami, parce qu'on vit ensemble, il n'y a pas de dérangement. Il n'y a jamais eu de querelle, il n'y a jamais eu de litige par rapport à ça. Mais quand chacun se retourne chez lui, il essaie de vivre de sa manière. De la tradition qu'il a, il essaie d'emprunter cela, il vit comme ça. Donc c'est la même question que je voulais poser à Amélie. Parce que je ne pense pas que la manière que les Algériens vivent, avec la religion musulmane qui les couvre par exemple, et en France, une fois qu'ils sont en France, et là, on ne voit pas la religion musulmane qui a assez de priorité ici. Est-ce que, avec par exemple les deux religions, parce qu'on voit que le christianisme... prévaut un peu plus que la religion musulmane. Est-ce que avec ces deux arts de comportement, parce que je me réfère un peu par rapport au mois de carême qu'ils sont en train de faire actuellement, tu vas avoir des musulmans qui te disent « Non, je ne veux même pas sortir dehors. Parce qu'ils se disent que quand ils voient les jeunes filles qui portent les culottes et qu'on sort, ils voient, ça détruit le zinc, quoi. Ça détruit le zinc. Donc, ils se disent qu'ils ne sortent pas dehors. Et les gens que tu voyais à Savant, tu ne vas pas les voir actuellement à Savant. Parce que pour eux, ça gâte tout.
Et vous-même, vous êtes d'origine marocaine. Je voudrais savoir, vous êtes né ici en France ou au Maroc ?
Né en France, oui.
Donc, à mon avis, vous êtes la première génération pour la famille qui, normalement, on est en France. Certainement, dans la famille, dans vos familles-là, vous avez quelques habitudes. Les parents ont bien maintenu quelques habitudes marocaines. Tout d'abord, la question, est-ce que vous avez quelques difficultés de faire habiter ou d'avoir eu deux types de civilisation à la maison et par exemple à l'école ou pas? Est-ce que vous avez senti qu'il y aura de différence ou pas?
Pour ma part, j'étais au collège, on va dire, dans les années, des années 2000. Donc, il est vrai que chez nous, c'était d'une culture marocaine. J'insiste beaucoup de dire marocaine et non pas musulmane, parce que pour rebondir sur ce que votre épouse disait tout à l'heure, et elle disait, et à juste titre, nous, on nous dit les Arabes. Et c'est vrai, dans l'inconscient collectif, et ça, malheureusement, c'est une question d'éducation de ces 10, 20, 30 dernières années, une personne, nous, on est arabe. Vous êtes arabe. C'est tout, point. C'est pareil. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que c'est malheureusement avec ce type de langage, et malheureusement, nous aussi, on s'y adèle aussi, on se prononce mal, on fait beaucoup de raccourcis. Et nous, on avait une culture marocaine. Important de le dire, c'est parce que maman faisait beaucoup à manger, on mangeait autour de la table, et mon père faisait sa prière à la maison. À la maison. Ce qui a changé après les années 2000 énormément. Mon père, je ne l'ai jamais vu dehors avec une djellaba. Pourtant, moi, je suis 2000, je n'ai jamais vu mon père aller à la mosquée en djellaba. Il était habillé normalement, il était dans son sac. Il avait sa djellaba, il allait à la mosquée, il sortait, il l'enlevait. Mais parce que c'était comme ça. Il est venu en France, c'était la discrétion. Et ça, j'insiste énormément dessus, parce que je trouve qu'il ne faut pas... Même, si nous-mêmes, on s'amuse à mélanger, à la fin, plus personne ne va s'y retrouver. Et je trouve qu'on doit s'appliquer à utiliser chaque mot. Très sincèrement, je revendique ma francité tous les jours, et je n'ai pas honte de le dire, même si c'est difficile à le faire. Et on a vu aucun changement quand on sortait de chez nous et qu'on allait à l'école. On était tous ensemble et on était français. Et franchement, on n'avait aucun mal à le dire. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que tout change et la médiatisation fait que tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Mais en réalité, c'est qu'en France, on a eu la chance mes parents ont eu la chance de pouvoir pratiquer leur religion, apprendre le français et travailler en France. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde, et ça, il faut quand même le dire, que la France est un luxe, quoi.
La culture africaine, d'une manière générale, en particulier le Maroc, la culture marocaine est-elle si éloignée de la culture française, d'après votre expérience ?
D'après mon expérience, oui, il y a une différence au niveau de la culture, qui est certainement dû, je pense, aux religions. On va dire que la France est quand même beaucoup plus catholique. Et le Maroc, on va dire plutôt musulman. Donc du coup, on a cette culture à travers les religions. Mais voilà.
Et la différence là ne vous dérange pas vraiment, pas du tout?
Non, pour moi, je ne fais pas trop de différence là-dessus, en fait. Pour moi, il n'y a pas de... Il y a des frontières qui existent, mais dans ma tête, pour moi, il n'y a pas de frontières. Il y a simplement, on va dire, le Maroc qui est un pays en voie de développement, la France qui est un pays développé, et puis il y a aussi un petit peu de culture française, parce que le Maroc a été colonisé par la France.
Bon, si vous êtes arrivé une fois de retourner, de faire un tour, soit de partir en vacances au pays, soit au pays de vos parents, sentez-vous à l'aise, soit en Algérie ou au Maroc. Deuxièmement, sentez-vous aussi différent des Algériens, soit des Marocains? Et si c'est le cas, ça sera encore plus grave avec vos enfants. Et qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants soient aussi pas aussi éloignés de vos origines?
Ben, ma réponse sera plutôt une question. C'est que toi, Bob, qui viens du RDC, comment tu considères ou comment tu considérais les immigrés, donc tes concitoyens qui vivaient à l'étranger, en dehors de l'Afrique?
En dehors de l'Afrique, en fait.
C'est-à-dire ton frère qui vient de la RDC, mais qui vit la plupart du temps en Europe ou aux États-Unis.
Bon, pour être franc, je voyais comme si c'était pas vraiment des Congolais. C'était pas vraiment des Congolais, surtout pour ceux qui ont presque vécu ici, plutôt nés ici en Europe, soit qui ont presque passé une grande partie de leur vie ici lorsqu'ils retournaient au pays. En tout cas, ils se comportaient pas comme nous, quoi, pas comme les Congolais vraiment.
Donc tu as la réponse à ta question. C'est-à-dire que moi, quand je vais en vacances au Maroc, je suis considéré comme un Français. Quand je vis en France, je suis considéré comme un Marocain. Donc du coup, c'est des fois un petit peu compliqué. C'est-à-dire que ça revient un petit peu à l'atelier précédent. C'est-à-dire qu'on est là systématiquement en fait en train de revendiquer notre appartenance au pays, aussi bien lorsqu'on va au Maroc, lorsqu'on vit en France.
Du coup, moi, je sais que quand je vais en Algérie, j'y vais beaucoup parce que je vais voir ma famille. Ça va pas être forcément pour aller voir l'Algérie. Et on se dit toujours avec mes parents, quand leurs parents, mes grands-parents, ils seront plus, est-ce qu'on y retourne? Parce que quand je vais là-bas, je me sens à l'aise parce que je suis parmi les miens. Mais j'ai pas non plus de contact que ça avec les personnes dehors. Enfin, je passe pas du temps dehors dans la rue à parler avec les gens. Et je pense que c'est pour le mieux parce que je serais pas forcément bien reçue. Et après, ce que je partage avec les personnes là-bas, ça va être la religion. Je pense que ça va rapprocher parce que je leur ressemble en ce point. Mais si par exemple, j'étais pas pratiquante ou que je portais pas le voile par exemple, je pense que ça se verrait encore plus que je ne suis pas des leurs entre guillemets. Et voilà, donc je sais que j'appartiens à ma famille, mais est-ce que j'appartiens au peuple algérien, j'en suis pas si sûre. Mais après, c'est toujours un plaisir d'y aller parce que voilà, je m'y sens bien, mais est-ce que c'est du fait du peuple ou du fait de ma famille?
Parce qu'on a assez de nuances, assez de doutes par rapport à la définition de la culture. Il y a beaucoup de personnes qui proposent leur définition. Donc je voulais que vous m'apportiez un peu d'expérience que vous avez par rapport à cette définition de culture qui propose beaucoup de nuances certaines personnes, quoi.
Ouais, c'est une question assez embarrassante, Justin. Je pense pas pouvoir te dire ce que c'est que la culture, parce que c'est assez délicat, mais je peux quand même te dire ce que n'est pas la culture. Et je pense que la culture, contrairement à beaucoup d'idées reçues, n'est pas quelque chose qui est forcément statique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ordre des choses qui auraient été léguées par nos anciens, nos parents, et qui, depuis des décennies, des années, des siècles, perdues. Pour moi, c'est pas ça la culture. La culture a quelque chose en fait de très dynamique, de très évolutif, et c'est même en cela qu'elle est importante. Je peux prendre des cas assez simples. Je viens de la Guinée-Conakry, je viens du Cameroun, Nabil a des racines marocaines. Je suppose que voilà, localement, on parle beaucoup d'une culture locale qui ferait que, voilà, peut-être, c'est pas moi, en tant que Guinéen, en tant que Camerounais, on est par exemple plus hospitalier que d'autres. Ça, c'est des choses qui se rattachent justement à la culture, disons-le, africaine ou subsaharienne. Mais pour peu qu'on prenne du recul, est-ce que cette idée de la culture de l'hospitalité est quelque chose qui est nécessairement vrai? Pour raisonner simplement, je ne suis pas sûr que tout le monde autour de moi dans mon pays soit particulièrement hospitalier. Autant je ne peux pas dire que tout le monde soit moi en Italie ou c'est pas moi en Tchéquie par exemple, je ne peux pas dire que tout le monde est nécessairement inhospitalier. Il peut avoir des différences, hein, d'accord. Du coup, la culture, dans ce cas-là, en fait, va plutôt fonctionner comme quelque chose, en fait, qui me dit ce que je dois être. Lorsqu'on dit que quand on est hospitalier, en réalité, de manière indirecte, on nous demande en fait d'être comme ça. Mais ce n'est pas que c'est la vérité, mais c'est qu'on nous demande d'être comme ça parce que c'est une espèce d'injonction à être ouvert. Du coup, pour moi, la culture, en réalité, va plutôt référer justement à notre capacité, finalement, à pouvoir justement nous approprier, n'est-ce pas, ces éléments, ces héritages passés-là, ou des héritages futurs aussi, mais qu'on peut justement s'approprier et pouvoir en faire des choses qui, pour nous, font sens. Hein, d'accord. C'est-à-dire que oui, je peux décider d'être hospitalier, c'est vrai, mais hospitalier d'une certaine façon. Hein, d'accord. C'est mon libre arbitre. Mais du coup, pour moi, la culture, pour faire simple, en fait, pour moi, elle n'est pas quelque chose de forcément statique. Moi, je la définis plutôt, je suis plutôt quelqu'un qui pense que la culture, c'est quelque chose de dynamique. Ça, c'est une chose. D'autre part aussi, il ne faut pas être naïf, la culture aussi a à voir avec tout ce qu'on a reçu comme bagage de nous, via l'école, via la cellule familiale, via la manière dont la société nous demande de vivre d'une certaine façon. C'est clair que oui, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent relever du culturel. Hein, d'accord. Ça peut aussi renvoyer à ça maintenant aussi. Autrement aussi, la culture peut aussi avoir quelque chose de très pernicieux. C'est-à-dire que oui, je perds dans des cadres où voilà, une certaine culture m'est imposée ou me demande de vivre d'une façon. Et ce n'est pas que des choses qui vont opposer, c'est pas moi, Camerounais, Français, Italien, Guinéen. Ce sont des choses qui, par même à l'intérieur de ces sociétés-là, sont très fortes. Un cas, par exemple, très simple. Je ne suis pas sûr que Karine, qui est là, partage nécessairement les mêmes cultures que, c'est pas moi, le bourgeois du 18e à Paris. Hein, d'accord. Forcément, il peut avoir à l'intérieur des choses. Et c'est pareil dans la bourgeoisie de Paris, du 18e à Paris. À l'intérieur, il y a forcément des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des cultures encore plus spécifiques. C'est pas moi, si je vais, un mec qui habite au Marais à Paris, c'est clair qu'il n'a pas nécessairement voilà, les mêmes goûts, les mêmes envies que le mec qui est à proximité loin du Marais. Tu vois, donc du coup, il y a ce genre de choses en fait qui sont tout à fait importantes. Ok, pour en finir avec cette question sur la culture, je dirais simplement qu'il me semble que la culture est davantage de l'ordre de la possibilité plutôt que de l'ordre de quelque chose qui vous est imposé, qui vous est donné comme une injonction. C'est vraiment quelque chose qui relève de la possibilité que j'ai de pouvoir me saisir des différentes influences que j'ai autour de moi, de l'héritage de mes parents, de tout ce que j'ai reçu à l'école, pour faire quelque chose qui fait sens pour moi, d'abord pour moi, même si après ça peut servir aussi à l'ensemble de la société.
Donc je vais faire beaucoup plus court quand même que Calvin. Je le rejoins sur pas mal de points. Moi, ce que je peux rajouter, c'est de mon sens à moi, la culture, c'est quand même aussi l'héritage aussi de nos parents. Tout ce qui, enfin aussi bien culture religieuse, familiale, sociale, etc. Pour moi personnellement, c'est vraiment l'encadrement familial et après effectivement les réseaux qu'on a pu éventuellement étendre aussi bien amical que professionnel, etc. Et c'est la culture, en fait, c'est tout au long de notre vie et je pense qu'elle s'améliore aussi, qu'elle s'améliore ou en tout cas qu'elle change et qu'elle se modifie en fonction des générations.
Bon, moi je m'attelle très souvent à ce que tu viens de dire, c'est vraiment évolutif, donc on peut facilement aussi perdre nos origines pour migrer vers d'autres origines. Et par rapport à cette question-là, j'aurais comme l'impression comme si que l'histoire, en fait, sera effacée. Et toi, tu ne penses pas que l'histoire aussi, par exemple, de ton pays peut aussi être effacer parce que tu veux migrer, soit vous voulez migrer vers d'autres origines, soit d'autres cultures.
Bon, l'histoire peut être effacée si seulement si on fait le choix de ne pas se donner les moyens de la conserver à travers un certain nombre de choses qui peut nous rappeler d'où on vient et d'où on va. Hein, d'accord. Là, pour moi, le débat n'est pas seulement de perdre ou pas ça, son histoire. On peut garder son histoire à travers des choses parfois très simples. Chez nous, d'où on vient, la mémoire n'était pas conservée à travers les contes, même si les contes étaient très romancés, étaient très... voilà. Mais c'était des choses qui permettaient seulement de garder notre histoire. On peut le faire autrement à travers un certain nombre d'éléments. Mais par contre, et c'est peut-être ça, la petite nuance que je peux apporter, c'est que voilà, il ne faut pas non plus être totalement obnubilé par l'idée que la vie n'est que linéaire. Le fait même de vivre, simplement, c'est un risque en soi. Hein, d'accord. Pour moi, je pense que le fait de vivre en soi, c'est un risque en soi. C'est parce qu'on peut avoir des gains, tout comme on peut avoir des pertes. Mais l'idée, c'est, tout, c'est de pouvoir être dans une logique, de pouvoir faire l'effort de conserver au maximum ce qu'il y a, ce qu'on peut conserver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ma culture, ou alors ce que tu appelles ta culture, tes valeurs, seront toujours exposées à des risques. C'est-à-dire qu'elles seront toujours amenées à être mises à courir des risques d'être perdues ou de disparaître. Mais c'est seulement à nous d'avoir toujours cette intelligence individuelle et collective, de trouver les moyens qu'il faut pour conserver les traces de cet élément-là. Et puis, ça peut se référer à l'idée de ce qu'on appelle parfois la tradition. Mais la tradition en soi, ce n'est pas le passé. La tradition, en fait, c'est renvoi au choix qu'on a fait de conserver des choses du passé. Je ne sais pas si tu me comprends. La question, ce n'est pas le passé en entier, ce sont des éléments du passé qu'on a fait le choix de garder. Hein, d'accord. Si, par exemple, on a conservé, par exemple, supposons la dot, qui est assez courante dans nos pays africains, la dot n'est pas la figure totale de ce que se faisait avant. Avant, il y a aussi des gens qui pouvaient avoir une compagne ou un compagnon sans nécessairement avoir quoi la dot. Moi, on a fait le choix de garder la dot parce que justement, à un moment donné, ça peut avoir une certaine utilité. Donc là aussi, il faut attention. Forcément, le passé va passer, il y aura des choses qui seront perdues, mais on peut donc faire des choix de garder en fait des choses intéressantes de ce passé-là pour qu'il nous rappelle au moins d'où on vient. Et en ce moment-là, pour les politologues, on estime pouvoir que voilà, le choix de la tradition est très politique. C'est-à-dire qu'on fait le choix de prendre le passé des choses utiles qu'on considérera des choses qu'on considère comme inutiles et qu'on mettra de côté.
Ça nous amène à faire à penser que ça change, la culture, ça veut dire que ça change. Et quand je vois madame qui est arrivée, je vois qu'il y a une culture parce que je vois ses habits, sa manière, parce qu'on sait que la religion aussi fait partie de la culture. Alors moi, je voulais savoir si je peux croire que madame, un jour, il va changer sa manière de s'habiller ou bien ça peut modifier. Vous avez modifié quelque chose dans le sens que voilà, la culture, c'est un truc dynamique.
Ma façon de m'habiller, c'est pas quelque chose que je vais ramener à ma culture ou à ma tradition. C'est plus un choix qui a été réfléchi à travers ma religion. Donc peut-être que ça changera, mais c'est pas dans mes plans pour l'instant. Et voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait en suivant une tradition, ou c'est pas quelque chose que je relie à peut-être mon pays d'origine. C'est vraiment quelque chose que je réfléchis tous les jours. Et que voilà, que je continue à réaffirmer. Mais je ne dis pas que c'est impossible que ça change. Mais...
Moi, justement, tout à l'heure, je parlais de la culture peut évoluer en fonction des générations et puis surtout considérer que c'est un héritage. Donc un héritage, c'est un cadeau. Un cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin. Donc à moi, aujourd'hui, de transmettre à mes enfants aussi bien la culture de mes ancêtres, c'est-à-dire de mes parents, et la culture telle que je l'ai modifiée, moi, avec des valeurs qui ont évolué au fil du temps ou que j'ai pu acquérir. Et donc, je leur transmets tout ce que je peux en termes de culture, de valeurs, et à eux, ensuite, un peu comme si c'était un relais, à eux de transmettre à leurs enfants. Après, peut-être que ce que je leur transmets, ils vont peut-être le modifier ou ils vont l'accentuer en bien ou en mauvais, hein, on ne sait pas. Au final, mais en tout cas, voilà, c'est un héritage, c'est un cadeau, c'est une transmission. La transmission et l'héritage, pour moi, je le considère comme un cadeau. Donc, on en prend soin et on essaye de le transmettre de génération en génération. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de modification de la culture en fonction des générations et avec surtout l'environnement qui nous entoure.